Bonjour à chacun. Êtes-vous plutôt prévoyant?
Oui, c'est. Oui.
Êtes-vous plutôt prévoyant ou plutôt détendu? Par exemple, ce que je veux dire, si demain vous devez prendre le train, partiriez-vous bien en avance, au cas où il arriverait quelque chose sur la route, ou bien partiriez-vous juste à l'heure nécessaire, car de toute façon cela ne sert à rien de partir en avance? Dans quelle catégorie vous trouvez-vous? Au début de la pandémie de Covid-19, les rayons du supermarché ont été dévalisés, notamment en papier toilette. Alors, cela peut nous faire un peu rire, mais apparemment, c'est ce qui est arrivé. Manifestement, les gens prévoyants avaient peur d'en manquer. J'ai appris qu'en Suisse, ce qui a été dévalisé, c'était les boîtes de conserve de ravioli. C'est le produit qui a été le plus acheté pour faire face au risque de pénurie de nourriture. Du coup, il y a eu une pénurie de raviolis en boîte. Pendant la grève des raffineries en automne, il y a tout juste quelques mois, la pénurie de carburant s'est accélérée parce que les Français ont fait des stocks d'essence et de gasoil, ce qui a diminué rapidement les réserves. Je ne sais pas, il y a un débat. Est-ce qu'il y aurait eu vraiment une pénurie si on n'avait pas fait de stock? Je ne sais pas. Je pense que la plupart du temps, qu'ils soient prévoyants ou pas, lorsque les gens se retrouvent vraiment en situation de risque, ils pensent tout de même à prendre leurs précautions. Actuellement, la France vit une période de turbulence, notamment au sujet des retraites. Que va-t-il nous arriver après 60 ans, pour ceux qui n'y sont pas encore ? À quel âge partirons-nous à la retraite et dans quelles conditions vivront les retraités? Ce sont les débats actuels. Alors on peut être d'accord ou pas avec la réforme des retraites, ce n'est pas la question de ce matin. Ce que je veux souligner, c'est que la question de l'avenir fait partie de nos préoccupations. Nous qui savons être prévoyants pour l'avenir, le sommes-nous pour notre destinée? Sommes-nous prévoyants pour notre destinée? Jésus a plusieurs fois enseigné ses disciples et la foule à ce sujet. Et aujourd'hui, je vous propose de lire deux paraboles. La première se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, souvent appelée la parabole des 10 jeunes filles. Et la deuxième dans l'Évangile selon Luc, qui est souvent appelée aussi la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Donc commençons pour la première. Ce sont en fait mes deux points pour aujourd'hui, simplement. Donc les deux textes, la première parabole se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, la parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Avant de se concentrer sur le sens de cette parabole, il serait judicieux de s'intéresser au contexte et à la culture de l'époque. Beaucoup d'éléments sont plus compréhensibles lorsque nous avons connaissance des codes culturels de l'époque. L'histoire mentionne 10 jeunes filles qui s'en vont pour aller à la rencontre du futur marié. En fait, il s'agit d'un mariage, des noces. On pourrait comparer ces 10 jeunes filles à des demoiselles d'honneur. La tradition voulait que ces demoiselles d'honneur aillent attendre le mari devant chez lui. Alors, manifestement, il n'y avait pas qu'elles, parce qu'on crie, il arrive. Donc, il y avait certainement d'autres personnes. Mais voilà, les demoiselles d'honneur vont attendre le marié devant chez lui. Et une fois qu'il est prêt, il sort de la maison en compagnie des jeunes filles pour former un cortège et aller rejoindre la mariée chez elle, enfin chez ses parents. Et ensuite, ils vont tous ensemble à la fête des noces. Cette procession devait avoir lieu le soir. Et selon la tradition, les demoiselles d'honneur devaient porter des lampes, torches, pour éclairer le chemin. Ces lampes ressemblaient certainement à des flambeaux. Les filles avaient avec elles une fiole d'huile à verser sur la torche afin de maintenir le feu allumé. À l'époque, il n'y avait pas d'allumettes ou de briquets. Donc pendant qu'elles attendaient le marié, la torche ne devait pas s'éteindre, elle devait être maintenue en veille. Le feu était donc faible. Et lorsque le marié arrivait, elle versait de l'huile sur le feu et le feu se ravivait et la torche était prête à éclairer le chemin. Le début de la parabole présente les personnages. Il y a 10 demoiselles d'honneur, 5 sont folles et 5 sont sages. Certains traducteurs parlent de 5 filles insensées et 5 filles avisées. Mais je pense qu'on peut garder folles et sages. On verra pourquoi dans quelques instants. Les jeunes femmes folles n'ont pas pris de réserve d'huile, alors que les 5 filles sages ont prévu des réserves. Ces 10 jeunes femmes vont à la rencontre du futur marié pour l'attendre devant chez lui. Sauf que le marié tarde à arriver. C'est au point où les filles s'endorment. Il semblerait que ce retard fasse aussi partie de la tradition. En fait, voilà, c'était l'habitude pour le marié de se faire attendre. J'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On attend plutôt la mariée. En tout cas, ce retard est conséquent. Au moment où le marié arrive, les 5 qui n'ont pas pris de réserve d'huile constatent que leurs lampes ne pourront pas tenir tout le cortège. Alors elles demandent aux 5 autres de leur en fournir. Sauf que si elles partagent, il n'en aura pas assez. Elles doivent donc aller chercher, celles qui n'en ont pas assez, chercher de l'huile par ailleurs. Et pour cela, donc, elles doivent quitter le cortège et arriver en retard à la fête. Mais une fois arrivées à la fête, on leur refuse d'entrer, car elles sont en retard et cela ne se fait pas. C'est même une offense vis-à-vis des hôtes. La parabole se termine par l'enseignement de Jésus au verset 13. « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Juste avant cette parabole, Jésus parle de la fin des temps. Il souligne que personne ne sait quand la fin des temps surviendra, ou même quand la fin de notre vie surviendra. Il faut donc se tenir prêt à chaque instant. Je ne pense pas qu'il faille trouver des symboles à tous les éléments de cette parabole. Et d'ailleurs, lorsqu'on donne une illustration, il y a toujours des limites aux illustrations. Ce que Jésus souhaite dire, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de notre destinée. Jésus annonce qu'il est, lui, le chemin vers le ciel. Il est celui qui nous offre la vie éternelle auprès de Dieu, après la mort. Où est notre foi ? Dans le sens, avons-nous mis notre foi en lui. Cette parabole aborde aussi les questions liées au salut. Jésus nous donne aujourd'hui l'occasion d'accepter la vie que Dieu nous offre. Mais un jour, il sera trop tard. De nos jours, nous avons un phénomène qu'il s'appelle le phobo. On en a parlé il y a quelques années, quand ça venait de sortir comme terme, le phobo. Cela vient de l'anglais, alors je ne suis pas très bon prononciation, fear of better option, c'est-à-dire la peur de la meilleure option. Je donne un exemple. Prenons un jeune qui se voit proposer plusieurs sorties pour un même samedi soir. Un ami lui propose d'aller au cinéma, un autre une sortie dans un restaurant, un autre l'invite chez lui. À une certaine époque, il y a tout juste quelques années encore, dans cette situation, on répondait oui à la proposition qui nous plaisait bien, on notait dans l'agenda et on bloquait la date. Et lorsque d'autres propositions arrivaient, on regardait l'agenda et si on était engagé à quelque chose, on disait non, j'ai déjà quelque chose de prévu. Aujourd'hui, ce qu'on constate chez beaucoup de jeunes, notamment à peu près de moins de 40 ans, c'est vrai qu'on n'est plus trop jeune après, mais enfin, je veux dire après peut-être 18, 25, 30 ans, je veux dire. Mais voilà, en tout cas chez les moins de 40 ans, ils répondent souvent en disant « oui, peut-être, oui, à confirmer ». J'ai trois propositions la même soirée. Je vais dire oui peut-être aux trois, oui à confirmer aux trois propositions. Et quelques heures avant, voire quelques minutes avant l'événement, je choisis où je veux aller et j'envoie un texto aux autres pour dire que je refuse les propositions, les deux autres propositions. Alors je peux en parler parce que j'ai moi-même vécu et subi un peu ce genre de comportement, d'attitude en tant que pasteur. Mes 12 dernières années. Alors, on critique parfois les jeunes pour leur manque d'engagement. Mais en même temps, c'est aussi la génération d'avant qui a induit ce phénomène, en partie. Cela s'explique par des réseaux marketing, mais aussi parce que l'on veut donner à nos enfants ce qu'on n'a pas pu avoir, comme le choix du métier, choix de la marque des vêtements, choix des cadeaux d'anniversaire, etc., choix du parfum de yaourt, etc. Aujourd'hui, on parle de surabondance de choix. On a tellement le choix qu'on a peur de choisir. Et même quand on choisit, on se laisse une porte de sortie et on s'engage moins. Je pense qu'on parle des moins de 40 ans, mais je pense que c'est vraiment dans la mentalité ambiante aujourd'hui. Avez-vous déjà regardé le rayon des shampoings dans les supermarchés ? Une fois, on avait des Suisses qui étaient venus à Nîmes, enfin, quand on habitait à Nîmes, quelques jours chez nous, et l'un d'eux disait, mais je me suis retrouvé devant le rayon des yaourts, je ne savais pas quoi choisir. C'est vrai qu'en Suisse, il y a plus de petits supermarchés. Là, on va, je ne sais pas, moi, on va à Leclerc ou à Barjouville, par exemple, on se retrouve devant le rayon des yaourts ou des shampoings, c'est énorme. Alors, je prenais l'exemple des shampoings. Si vous voulez, on pourrait passer plusieurs heures à lire toutes les caractéristiques, les étiquettes des shampoings différents. On trouve des shampoings pour les cheveux longs, pour les cheveux courts, les cheveux bouclés, les cheveux gras, les cheveux raides, les cheveux secs, les cheveux colorés, les cheveux décolorés, les cheveux gris, les cheveux abîmés, les cheveux pelliculés, les cheveux emmêlés, les cheveux peu volumineux. Et attention, alors le dernier, c'est mon préféré. On trouve même des shampoings. C'est écrit sur le flacon, je pense que vous le voyez, vous, sur le flacon, pour cheveux normaux. Alors, je crois que notre époque est inédite dans la qualité des choix qu'elle offre. Et ce n'est pas étonnant que la notion d'engagement et de décision soit parfois si difficile. Jésus nous demande de faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Comme les demoiselles d'honneur de la parabole, nous ne savons pas quand surviendra la fin. L'histoire parle de jeunes filles folles et de jeunes filles sages. Selon la tradition, elles savaient que le futur marié se ferait attendre. La torche ne pouvait pas brûler indéfiniment. Elle devait avoir une réserve d'huile. Pour une occasion considérée comme importante à l'époque, les cinq femmes insensées auraient dû prendre toutes leurs précautions comme les cinq autres filles sages. C'est tellement évident que celles qui n'ont pas pris d'huile sont qualifiées de folles. Il y a tout de même un détail dans l'histoire qui nous interroge. Pourquoi ne peuvent-elles pas entrer en retard ? Le traitement qui leur est réservé n'est pas-il un peu dur ? C'est la même remarque qui est soulevée lorsque la Bible dit qu'il n'y aura pas une deuxième chance après la mort. C'est maintenant qu'il faut faire le choix, parce qu'un jour, il sera trop tard. Plusieurs personnes posent la question, Dieu n'est-il pas miséricordieux? Ne peut-il pas donner une chance d'entrée même pour ceux qui sont en retard? Dans la culture de l'époque, ne pas avoir assez d'huile et arriver en retard, c'était une offense envers la famille des mariés. Ils font l'honneur aux jeunes femmes d'être les demoiselles d'honneur. Elles auraient dû prendre ce rôle au sérieux. Leur attitude manifeste un mépris, une indifférence, une désinvolture. C'est pour cela, je pense, que les portes leur sont fermées. Elles avaient la possibilité de participer à la fête de manière honorable, mais elles ont méprisé cet honneur qui leur a été fait. L'offense ne vient pas de ceux qui refusent l'entrée, mais de celles qui ont humilié les hôtes. Cet été, je vais célébrer 3 mariages, et encore un ce printemps, ça fait 4. Je sais qu'un tel événement est important pour les mariés et pour les familles des mariés. Imaginez que la veille de la cérémonie, le pasteur fasse la fête toute la nuit et le jour du mariage, il fait une sieste l'après-midi. Et au moment où les invités s'installent, la famille cherche le pasteur et on le trouve dans son lit, en train de dormir. On le réveille car c'est l'heure. Tout le monde est prêt, sauf lui. Il se lève et comme il n'a pas préparé ses vêtements, il y va en tenue décontractée, comme tous les jours, comme quand il est chez lui et qu'il fait la sieste. Et comme il n'a rien vraiment préparé, il improvise et c'est une catastrophe. Qui est l'offenseur? Qui est l'offensé? Dans la parabole, ceux qui sont offensés, ce sont les hôtes. Cette parabole nous invite à vivre la vie que Dieu nous offre en tant qu'il est encore temps. Tant qu'il est encore temps, sans mépriser, sans rejeter l'offre de Dieu. Une vie auprès de lui qui commence dès aujourd'hui et qui se poursuivra dans l'éternité. Regardons maintenant la deuxième parabole. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Le pharisien et le collecteur d'impôts. C'est une parabole, voilà, dans un autre livre. Mais on verra qu'on peut faire des liens. Il dit encore cette parabole, c'est Jésus, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Les pharisiens formaient un parti religieux juif très respectueux de la loi de la Torah. La Torah, c'est la loi, enfin la loi décrite et donnée dans l'Ancien Testament. Ils étaient même très stricts. Ils ne se mélangeaient même pas avec les non-juifs afin de ne pas se laisser contaminer par le péché. Les pharisiens étaient bien vus de la part des juifs. Il semblerait même qu'ils étaient proches du peuple, ils avaient la faveur du peuple. Les collecteurs d'impôts, eux, étaient mal perçus. Ils étaient juifs, mais ils étaient chargés de collecter l'impôt auprès des juifs pour les Romains. Avec les mots d'aujourd'hui, on les appellerait les collabos, les traîtres. C'étaient des gens très mauvais, selon les juifs. Ils ne méritaient aucune attention de la part du peuple. Jésus, en côtoyant les collecteurs d'impôts et en soulevant les défauts des pharisiens, allait à contre-courant du peuple juif. Dans cette histoire, le pharisien, irréprochable, est dans l'erreur. car il pense que par sa conduite, il mérite le royaume des cieux. Et le collecteur d'impôts, perçu comme un malfaiteur, un vaurien, par sa repentance, est déclaré juste aux yeux de Dieu. Cette parabole a choqué les auditeurs de Jésus. Et pour se rendre compte du choc provoqué par cette histoire, il faut se poser la question, et si c'était de nous qu'il parlait, en tant que pharisiens ? Dans la parabole des 10 jeunes filles, Jésus nous invite à veiller, à lui faire confiance dès maintenant, à entrer dans la vie éternelle aujourd'hui. Pour le fidèle engagé, habitué à aller à l'église, comment cela peut-il lui parler ? Personnellement, lorsque je lis cette parabole des 10 jeunes filles, je me dis presque, ça ne me concerne pas. J'ai déjà fait tout ce qu'il faut pour ma destinée. J'ai accepté de suivre Jésus. Je suis sauvé. Non seulement je suis sauvé, mais je suis dans cette dynamique d'aller annoncer la vérité, voire de dénoncer le mensonge dans le monde. Et si c'était nous, les pharisiens orgueilleux ? C'est cette question que la parabole nous pose. C'est de cette manière que Jésus veut nous interpeller par cette parabole. Il me semble que Jésus dénonce deux attitudes chez le pharisien. Premièrement, il compte sur ses œuvres pour mériter le salut. Et en plus, il donne la dîme, il fait tout ce qu'il faut, tout comme les autres qui sont dans la bonne voie. Premièrement, il compte sur ses œuvres pour mériter le salut. Deuxièmement, comme il pense avoir la connaissance et faire ce qui est bon, il s'enorgueillit et il méprise les autres. Ces deux écueils ne sont pas à négliger, même pour celui qui est engagé sincèrement dans la foi. C'est un risque de devenir ainsi. Alors pour conclure, ces deux paraboles, bien qu'elles soient présentes dans deux livres différents, je trouve qu'elles se complètent. La première nous invite à suivre Jésus dès aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Préparons notre destinée dès maintenant. La vie auprès de Dieu commence dès aujourd'hui. La deuxième parabole nous invite à ne pas nous reposer sur ce que nous pensons acquis. Celui qui a mis sa foi en Jésus est sûr de son salut, tant qu'il persévère dans une foi repentante, humble et sincère. La foi, c'est tous les jours. Ce n'est pas juste le jour de la conversion. C'est tous les jours. Et cette deuxième parabole nous invite à ne pas juger les autres, à ne pas mépriser celui qui, à nos yeux, est dans l'erreur. Nous devons effectivement annoncer la vérité dans un monde rempli de mensonges, mais avec humilité et sans mépris. Car ce n'est pas nous qui possédons la vérité, c'est Dieu qui la possède et qui nous la révèle dans sa parole. Et nous n'y sommes pour rien. Soyons donc toujours attentifs à sa voix, veillons, et lorsque le moment sera venu, nous entrerons dans la salle des fêtes auprès du Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour cette fête dans le ciel, comme une fête de mariage que tu prépares pour nous. Merci parce que tu nous offres toute cette période où nous vivons sur terre pour accepter ton invitation, pour venir à toi. Tu nous honores, tu nous fais le privilège de nous offrir cette relation avec toi gratuitement, par grâce. Cela ne vient pas de nous, mais de toi. Que nous sachions être reconnaissants et marcher avec toi dès aujourd'hui. Aide-nous à toujours savoir que cela ne vient pas de nous, mais de toi. Aide-nous à marcher avec toi humblement. Rien ne vient de nous. Aide-nous à ne pas nous enorgueillir, mais à rester dans notre position de créature humble, à témoigner avec douceur et sagesse, avec humilité. Merci pour ces deux paraboles qui nous interpelle. Aide-nous à nous laisser interpeller chaque jour de notre vie. Car rien n'est acquis, nous sommes faibles et nous avons besoin de toi chaque jour. C'est chaque jour que nous voulons nous laisser guider par ton esprit. Et que ton Église aussi marche par l'esprit en tant que famille, comme l'a rappelé Sylvain. Au nom de Jésus. Amen.